À chaque nouveau numéro de la Revue Durable, Radio Éthique vous proposera de découvrir les enjeux développés dans son dossier phare. Nous écoutons Jacques Mirenowitz, l'un des fondateurs de la Revue Durable. Nous allons nous intéresser au dossier « Énergie, les territoires sur la voie de la transition » paru dans la Revue Durable numéro 38. L'objectif est donc de préparer l'avenir et c'est ce que s'emploie à faire le mouvement dit de la transition. Alors, qui sont les instigateurs de ce mouvement et quels en sont les enjeux ?
Alors, le mouvement de la transition, en gros, il a à peu près 5 ou 6 ans, pas plus, donc c'est tout à fait nouveau. Et aujourd'hui, on peut dire que, en gros, il existe essentiellement là où il est né, c'est-à-dire dans les pays anglo-saxons, à commencer par le Royaume-Uni. Comme souvent, ce mouvement est né d'une rencontre entre deux personnes assez remarquables. La première, c'est le pape du pic pétrolier. Il s'appelle Colin Campbell. On l'avait interviewé dans un précédent numéro, le 28. C'est lui qui a le mieux fait connaître, on peut le dire, au monde entier, la perspective fort prochaine du pic pétrolier, c'est-à-dire le moment à partir duquel, au lieu d'avoir une croissance de la production de pétrole à l'échelle mondiale, on va amorcer une décroissance progressive et ça va probablement durer sur 150 ans. Donc on a connu 150 ans de croissance de la production de pétrole, on en est de plus en plus dépendant et pendant à peu près la même période de temps, il va falloir qu'on s'habitue à en disposer de moins en moins. Et c'est un énorme problème, parce que nos sociétés sont complètement dépendantes de ce pétrole. Et Colin Campbell, au début des années 2000, rencontre un professeur de permaculture, ça se passe en Irlande, à Kinsale, une petite ville au sud de l'Irlande, Rob Hopkins, et qui lui s'intéresse, en tant que spécialiste de la permaculture, à la résilience des écosystèmes. Et il se rend compte, en apprenant ce que lui explique Colin Campbell, que nos sociétés ne sont pas du tout résilientes, ne sont pas du tout préparées pour cette perspective. Et donc, il se met à l'époque avec quelques autres, avec ses étudiants, à concevoir ce qu'il appelle un plan de descente énergétique. Et le premier aura lieu en 2004, donc en Irlande, à Kinsale. Le deuxième, puisque Rob Hopkins vient d'Angleterre, donc il retourne en Angleterre, à Totnes, dans le Devon, au sud de l'Angleterre. Et là, il conçoit le premier plan de descente énergétique, donc en 2005, je crois. Et à partir de là, il affine une méthodologie sociale à l'échelle des collectivités locales et il déclenche un vaste mouvement planétaire qui s'appelle le mouvement de la transition.
Pour le plan d'action de descente énergétique, ils ont établi ensemble plusieurs étapes.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, le plan d'action, ça s'appelle même un plan d'action de descente énergétique, en fait, c'est la dernière étape d'une méthode qui en elle-même en constitue 10. Alors, on n'est pas obligé de suivre à la lettre ces préconisations, mais elles sont fondées sur l'expérience, elles sont très judicieuses. Alors, je peux en citer quelques-unes. La première, tout simplement, c'est que partout, maintenant, il y a des gens qui ont compris ce que je viens de dire. C'est-à-dire que la perspective n'est pas bonne. Je ne vais pas mentionner le changement climatique parce que tout le monde est au courant, mais en fait, c'est la conjonction du pic pétrolier et du changement climatique qui nous impose de changer nos pratiques partout à l'échelle locale. Il y a des gens qui sont au fait de cette littérature, que ça préoccupe énormément, et donc la première chose à faire, c'est de se réunir pour former un groupe de pilotage à quelques-uns, pour que tout ne repose pas sur une seule personne. La première chose qu'ils doivent faire, c'est sensibiliser autour d'eux et aussi se relier aux groupes militants qui travaillent, on peut dire, professionnellement sur ces thèmes. Il y a toujours des associations, des ONG, des groupes locaux qui sont déjà impliqués dans ce genre de sensibilisation et de travail. Et une fois que ce travail a été fait, une étape importante consiste à créer un grand événement, mais ça peut avoir lieu au bout de 1, 2, 3 années, il faut prendre le temps de préparer cet événement, où là, le but est de réunir un maximum de gens, donc le plus possible de personnes qui ont entendu parler du travail du groupe de pilotage, son travail de sensibilisation, pour marquer le coup un jour ou un soir, et ça peut être fait de manière très festive, et là, on décide de former des groupes de travail sur des thématiques particulières. Il y a une thématique qui a beaucoup de succès, c'est toujours l'alimentation avec la constitution de jardins potagers. Il peut y avoir des groupes sur l'énergie, sur un thème fétiche aussi, ce sont les monnaies locales, les monnaies alternatives à l'euro ou aux francs si on se trouve en Suisse, ou la livre sterling en Angleterre. Toujours dans le but de créer de la résilience, c'est-à-dire de l'autonomie et de la capacité à tenir le coup en cas de coup dur, en cas de des nouveaux shops pétroliers ou de pénuries alimentaires. Donc c'est vraiment des gens qui prennent les perspectives sombres tout à fait au sérieux, et il y a beaucoup d'arguments qui plaident pour que ce soit une option tout à fait légitime aujourd'hui. Et puis après, voilà, il y a d'autres modalités pratiques pour travailler ensemble, comme les ateliers, ils appellent ça des ateliers portes ouvertes. Quelque chose de très important, c'est mener des actions visibles. Donc c'est montrer, pour créer un élan, qu'il y a des gens qui prennent en charge ces problèmes et qui bougent, qui font des choses, qui font des réalisations. Aussi, quelque chose que je trouve de plutôt sympathique, c'est associer les aînés, parce que les aînés, ils ont connu, encore aujourd'hui, il y a des gens qui ont connu l'avant-pétrole abondant, et ils ont des souvenirs sur les manières de faire à cette époque-là. Tout un travail aussi sur la reconstitution des savoir-faire. Beaucoup de compétences ont été perdues dans le domaine de la préparation, le recyclage. Très important aussi, et ça c'est un enjeu qui traverse tout le dossier qu'on a préparé, c'est créer des ponts avec les élus. Donc l'idée n'est pas de dire que tout viendra, là je parle pour le dossier et plus pour le mouvement des transitions, le dossier de la revue durable dit qu'en fait le but c'est travailler de bas en haut, mais aussi du haut vers le bas, puisqu'aujourd'hui il y a de plus en plus d'élus qui prennent des initiatives intelligentes. Et le mouvement de la transition lui-même demande de tisser des ponts avec les élus qui sont en responsabilité, c'est quelque chose d'extrêmement important.
Alors, il y a une association qui aide justement les élus à créer ces ponts, en tout cas au niveau des municipalités européennes, c'est l'association Energy Cities, qui a été créée en 90.
Oui, voilà, et qui vient de changer de nom, ça s'appelait avant Energy Cité, ça a été fondé à Besançon, et maintenant c'est une organisation européenne qui vient de changer de nom pour s'appeler Energy City. Eux, ils plaident maintenant pour ce qu'ils appellent des villes à basse consommation d'énergie et haute qualité de vie pour tous. Ils se soucient en effet pas seulement d'enjeux techniques, mais de l'enjeu du vivre ensemble avec une haute qualité de vie pour tous. Et très souvent, on s'aperçoit, et là tous les discours sont convergents, et toutes les expériences sont convergentes, c'est que réduire la consommation d'énergie, augmenter la part des énergies renouvelables, diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Chaque fois qu'on prend ces mesures qui ont un caractère évidemment d'abord et avant tout technique, on s'aperçoit que pour faire ça, on augmente la qualité de vie pour les populations qui vivent en ville, ne serait-ce qu'en augmentant par exemple l'espace public pour la mobilité douce, pour les piétons, pour les vélos. Si on pratique une mobilité plus intelligente, on a aussi une ville qui est beaucoup plus accueillante. Si on fait des trous dans les écosystèmes, si on enlève des espèces les unes après les autres, si on mute le territoire, si on surexploite, si on pollue, la capacité de résilience de l'écosystème, elle a des limites. Elle est amoindrie, elle est touchée, elle est affectée. Si dans les populations, on disloque le lien social parce que chacun a un comportement individuel, il se préoccupe plus de son voisin, il se préoccupe plus de la communauté, il se préoccupe plus de savoir si un bien commun pour lequel tout le monde essaye d'apporter sa part, eh bien ça veut dire qu'en cas de coup dur, et le coup dur il est très clair hein, pour le mouvement de la transition, je l'ai dit, c'est le pic pétrolier qui nous pend au nez, il y a de fortes chances qu'il sera là demain matin. C'est sûr qu'il va avoir lieu dans les années prochaines, c'est sûr et certain, puisque on sait pertinemment que les réserves d'énergie fossiles, pétrole en particulier, sont finies, elles sont limitées. Donc le jour où le cours du pétrole va exploser comme il n'a pas encore explosé, de façon définitive, c'est absolument évident que toutes nos collectivités seront très 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 ébranlées, elles seront ébranlées très profondément. S'il n'y a pas de lien social, si rien ne relie les gens à l'échelle locale pour se serrer les coudes au moment où ça va arriver, mais c'est sûr qu'on aura une explosion sociale et ce ne sera plus la peine de parler de qualité de vie et de développement durable. La résilience, c'est ça, c'est comment est-ce qu'on se prépare humainement et pratiquement pour faire face d'abord en diminuant notre consommation et ensuite en étant prêt à cette échéance.
Alors une réponse donc localement à Genève, c'est tout simplement de planifier l'avenir énergétique.
Oui, donc souvent on entend le discours que les énergies renouvelables, c'est peanuts, ça compte pour rien, c'est une fraction de notre consommation d'énergie, donc c'est un discours pour bobo qui pèse pas lourd dans la problématique énergétique entre les gens sérieux. De ce point de vue, l'exemple de Genève est extrêmement intéressant parce que dans leur constitution, d'abord, ils excluent le nucléaire. Donc, déjà, on ne peut pas faire appel à l'électricité d'origine nucléaire. Et ensuite, les élus ont pris au sérieux cette question du pic pétrolier et ont dit on va s'organiser pour se passer de plus en plus de pétrole et de gaz. Et pour ça, on va planifier énergétiquement le territoire. C'est-à-dire que systématiquement, partout, on va voir quelles sont les énergies locales qui sont disponibles, donc renouvelables, pour pallier à la sortie progressive du pétrole. Donc là, ce n'est pas organisé par des associations ou des citoyens qui plaident pour une telle démarche, c'est vraiment organisé au plus haut niveau de l'État cantonal de la République de Genève. Et donc maintenant, il commence à avoir des exemples extrêmement intéressants, comme l'utilisation thermique des rivières, du lac, la géothermie de surface, la géothermie profonde. Et associé à cette recherche des énergies renouvelables locales, il y a une démarche systématique aussi pour diminuer la consommation d'énergie par les bâtiments d'une façon extrêmement volontariste. Et donc l'article décrit cette démarche avec force exemple à l'appui pour montrer que c'est tout à fait possible. Et là, il nous semble que Genève est très très à l'avant-garde sur ce terrain.
Alors c'est une initiative tout à fait intéressante et qui rejoint aussi le scénario alternatif qu'a proposé l'association Virage Énergie dans le Nord-Pas-de-Calais sur l'avenir énergétique de la région, là aussi du sans nucléaire mais aussi sans effet de serre.
Voilà, alors ça c'est intéressant parce que si vous voulez, à Genève, là, c'est dans la législation, c'est en cours, les autorités sont derrière, il y a des spécialistes qui travaillent, il y a des chantiers qui sont à l'œuvre, la démarche est en cours. Mais dans beaucoup d'endroits, en particulier en France, ce qui est réalisé aujourd'hui...